Cercavo la grande bellezza, ma non l'ho trovata.
That's funny. What? That plains dust and crops where there ain't no crops.
I want to bring salvation. Father, take me back. Make a feast. Welcome me home. I want to be your son. I want to pay the price.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor, des toiles plein les yeux. Cette semaine, la toile nous est familière puisqu'elle abrite un nouveau film du jeune et fringant Woody Allen, Café Society. Et ce sont Sarah et Mathias qui m'accompagnent pour prolonger la séance, une fois disparues les dernières notes de jazz du film. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Jesse Eisenberg est un certain Bobby Dorfman, jeune juif new-yorkais aspirant à un quotidien un peu plus palpitant que celui que lui réserve la bijouterie familiale, et rejoint à Hollywood son oncle Phil, riche agent de cinéma. Celui-ci l'introduit dans les soirées les plus huppées, mais lui fait surtout rencontrer la jolie secrétaire Vonnie, jouée par Kristen Stewart. Le jeune homme est immédiatement sous le charme. Il déborde d'ardeur poétique et d'attention maladroite, même quand il apprend que la belle est en couple. Pour autant, il noue une solide amitié jusqu'à ce que Vonnie, abandonnée par un amant à l'identité pour le moins problématique, tombe littéralement dans les bras abasourdis de Bobby. Et le film ne fait que commencer. Le scénario ainsi lancé prend des détours souvent surprenants qui nous font croiser un grand frère peu scrupuleux, les enseignements de Socrate, une deuxième Vonnie et comme toujours beaucoup de jazz et de répliques acidulées. Je m'arrête ici et me tourne vers vous, Mathias et Sarah, pour connaître votre avis.
Moi j'ai trouvé que, comme tu le disais, la musique était très intéressante. Moi ça m'a beaucoup frappé, ce jazz omniprésent à travers tout le film. Ça m'a beaucoup plu et je trouve que ça pose vraiment l'ambiance du film.
Oui, pour moi donc, c'est un nouveau Woody Allen, un énième Woody Allen, et avec toujours un peu les mêmes recettes mais qui fonctionnent. Et je trouve que le film fonctionne bien, malgré que ce soit un énième Woody Allen.
Oui, c'est exactement ça. Et c'est un énième Woody Allen, beaucoup plus Woody Allen que les récents Woody Allen. Enfin, c'est vraiment exactement ce qu'on a envie de retenir de la carrière de Woody Allen. Il y a quelque chose d'assez synthétique de son esprit dans ce film. On retrouve tout ce qu'on a envie de trouver chez lui, avec quand même un très léger renouvellement, on en discutera peut-être, sur une forme de sentimentalisme qui apparaît chez lui et qui est quand même assez nouveau. Malgré tout, j'ai de petites réserves quant au rythme du film qui fonctionne nettement moins bien, je trouve, par exemple, que le précédent. Il y a quand même des moments où la mayonnaise retombe un peu. Malgré tout, il y a d'autres moments où on est vraiment dedans. Et globalement, c'est un film assez réussi, modulo cette petite réserve que j'émettrai. Malgré tout, oui, il y a quand même... Il y a quand même cette patte qui est vraiment toujours la même. Et ça commence, on le dira jamais assez, par cette espèce de non-réalisme complet, mais qui nous prend. Il y a le mot rêve qui est très important dans le film et qui intervient dans un certain nombre de répliques clés. Et ce film, quelque part, il fonctionne vraiment comme un rêve. Il y a quelque chose de très fantasmatique dans la représentation de tout. C'est un monde où les femmes sont belles, où la réussite est possible aussi, alors qu'on est dans les années 30 aux États-Unis. Historiquement, c'était pas gagné. Ça verse jusque dans la caricature avec cette famille juive qui est un petit peu la marque de fabrique de Woody Allen aussi.
Et New York.
Et New York.
Et surtout New York, parce que le film quand même se fonde sur une claire opposition entre la Californie, le soleil, les apparences, les grandes villas et la ville de New York. On comprend très vite que Woody Allen, on sait où son cœur va. C'est New York.
Ça fait longtemps qu'on l'a compris.
Oui, mais là c'est encore plus clair, puisque quand on voit la trajectoire du personnage, c'est... Los Angeles, c'est pas pour moi, et New York a tout à m'offrir.
Et cette opposition se voit bien à travers les couleurs sur l'écran, je trouve. Enfin, au début, tout est clinquant. Il y a vraiment une lumière très dorée qui semble prendre le dessus. Et quand, dès qu'on a des scènes dans cette famille juive new-yorkaise ou quand il retourne ensuite à New York même, on voit vraiment des tons plus gris et donc un contraste assez saisissant qu'on retrouve même dans les scènes où Bobby se retrouve avec d'autres personnages d'Hollywood. Lui reste très terne face à leur éclat.
Oui, et cette... Même cette esthétique, il y a quelque chose de très très onirique. Et tu disais, le personnage de Bobby est assez significatif dans la façon dont il est représenté. C'est-à-dire qu'à Hollywood, tout le monde est en costume blanc et lui est en marron seul au milieu pendant toute la première partie du film. Et c'est très très amusant et ça porte tout de suite ce décalage entre ce Jesse Eisenberg qui joue entre guillemets le personnage de Woody Allen. Parce que voilà, 50 ans plus tôt, c'est Woody Allen qui aurait incarné le personnage. Et Jesse Eisenberg est particulièrement doué dans ce rôle, je trouve, de jeune homme gauche.
Il y a quelque chose que j'ai remarqué, qui m'a plu dans ce film, c'est que d'habitude, quand Woody Allen fait jouer des jeunes premiers, il les fait jouer comme lui. Notamment dans le film Minuit à Paris, où l'acteur qui jouait l'acteur principal, il les fait jouer strictement comme lui, c'est-à-dire très prolixe, très maladroit, très bégayant. Et là, je trouvais qu'il y avait une sorte d'aisance du personnage qui était moins inféodé à l'acteur Woody Allen et plus personnel.
Peut-être cette opposition du personnage principal avec les autres se voit aussi à travers Vonnie, qui elle aussi reste très démarquée par rapport aux autres personnages du cadre d'Hollywood, puisque déjà elle est brune, alors que toutes les femmes sont blondes sinon. Et du coup, enfin. Déjà, il y a ça, et puis ses discours même se distancient vraiment de cet univers dont elle veut se démarquer, visiblement.
Et puisqu'on en était à parler de Jesse Eisenberg, Kristen Stewart est assez éblouissante dans son rôle, ça je pense qu'on ne pourra pas le contester. Elle s'impose vraiment dans un rôle qui lui va vraiment très très bien. Et qui s'inscrit aussi dans toute cette esthétique, avec ses gros plans sur son visage qui aspire à la caméra, qui... Dans ces multiples dîners aux chandelles. Oui, et tout ça qui une fois de plus, participe de cette esthétique onirique, artificielle, qui s'embarrasse absolument pas de la réalité sociale. Ça, on le comprend dès le début. Il y a beaucoup de choses qui montrent l'artifice, certaines coupes au montage où on a l'impression d'une mauvaise transition de PowerPoint et Woody Allen s'amuse à faire partir une image dans un coin. Puis cette voix off aussi, qui est très présente.
Et qui est assez déroutante même.
Qui peut être assez déroutante, et c'est Woody Allen lui-même d'ailleurs qui se charge de la voix off.
Oui, et peut-être que ces artifices qui sont mis en avant servent à souligner cet univers d'Hollywood. Parce que je me suis un peu demandé pendant tout le film pourquoi Hollywood, puisque cette histoire d'amour en fait est assez... intemporelle, elle pourrait vraiment se passer à n'importe quelle époque, dans n'importe quel lieu. C'est assez banal quand même, c'est une histoire. Il aime la même femme que son oncle, c'est quand même pas très original en fait. Et du coup, peut-être que le cadre d'Hollywood est justifié par la volonté de montrer une sorte d'artificialité de l'histoire, de ce topos en quelque sorte.
Oui, un petit peu comme dans le dernier film des frères Coen, il y a aussi cette volonté assez jouissive de s'amuser avec le cinéma à l'intérieur du cinéma. Il y a un nombre de clins d'œil incalculables. Déjà, la liste de noms de géants du cinéma qui est égrenée tout le long du film par l'oncle. Et puis on a le film de gangster, avec ce grand frère gangster. Enfin, moi, il y a certaines scènes sous un pont métallique, on a l'impression d'être dans Il était une fois en Amérique. Enfin, c'est ça. Le mélo aussi, parce qu'il y a une ou deux scènes, mais justement de dîner aux chandelles avec de déclarations enflammées, de couples éplorés comme ça, qui sont assez amusantes et dont on sait qu'il faut pas les prendre complètement au sérieux, en tout cas pas jusqu'au bout. Et puis voilà, les références à lui-même.
Le film m'a fait beaucoup penser à La Rose pourpre du Caire. Sauf que là, du coup, le personnage ne sort pas de l'écran du cinéma, mais là, les personnages sont eux-mêmes dans l'écran de cinéma et jouent avec les codes du cinéma et vivent un peu l'histoire rêvée des amourettes dans un film de Woody Allen. Donc c'est très, très complexe. Et voilà, Woody Allen se met aussi en scène, je pense, avec aussi un regard un peu... un peu d'autodérision sur lui-même et sur le monde du cinéma. Puisque Woody Allen est un réalisateur de New York, c'est pas un réalisateur du monde très brillant et très ensoleillé de Californie.
Et malgré tout, donc, on le disait au début, un renouvellement, enfin, peut-être pas, on va peut-être pas aller jusqu'au renouvellement, mais une touche quand même assez nouvelle pour ce premier film de la 9e décennie de Woody Allen. Mais cette espèce de tristesse, presque de fatigue qu'il y a, ben, entre autres dans la scène finale, alors que certains ont trouvé ratée, d'autres très belle, mais en tout cas, il y a quand même une tentation, ben, d'une forme presque de résignation. Enfin, c'est clairement de la résignation qu'il y a dans les deux regards croisés de ces personnages à la fin du film. Il y a le fait qu'on est à la fin des années 30 et on a presque l'impression de sentir 1939, en fait, rien que dans cette dernière scène, de sentir que y a vraiment quelque chose de résigné dans l'air. Enfin, je sais pas si c'est juste une impression personnelle, mais je trouve ça assez nouveau, finalement.
Ce que j'ai senti, c'est qu'on a quand même deux personnages qui ont plus ou moins réussi ce qu'ils voulaient dans la vie. Enfin, plus ou moins, vraiment plus ou moins, qui du coup ont quand même atteint un statut social qui est enviable. Et moi, cette fin, je l'ai lu comme et après. Voilà, on est arrivé là et qu'est-ce qu'on en fait? Et voilà, parce que du coup, cette fin, qu'on n'est pas vraiment une, en fait, parce qu'il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de dénouement de l'histoire. Et du coup, voilà, il y a une sorte de flottement et qui rejoint. Enfin, moi, je l'ai lu comme une forme de vision un peu onirique sur les deux personnages et un peu mélancolique quand même.
Oui, je pense qu'il y a une sorte d'essoufflement en fait dans cette fin, parce que moi j'ai compris ça un peu comme on a une sorte de drame familial avec une sorte de tragédie, donc ce couple à trois en quelque sorte qui ne peut fonctionner et avec un schéma narratif vraiment théâtral, puisque il y a cette scène de reconnaissance avec par exemple la lettre qui est l'objet qui permet à Bobby de reconnaître Vonnie dans celle qu'aime son oncle. Enfin, c'est assez compliqué, mais c'est vraiment un ressort théâtral, je trouve, et après on débouche sur rien, donc il y a une forme d'essoufflement qui montre peut-être la vanité un peu de ce genre de schéma très classique et qui sont propres aussi au cinéma.
Au cinéma et au cinéma de Woody Allen, qu'il adore jouer de ce genre d'effet de théâtre dans son film. Mais voilà, alors si c'est une histoire d'amour qui est le sujet du film, à ce moment-là, c'est finalement un film très singulier chez Woody Allen, parce qu'il ne finit pas comme on s'y attendrait. Si c'est plus, en effet, une histoire de mœurs, comme tu le disais, Mathias, finalement, on retombe sur nos pattes. En tout cas, c'est certain qu'il y a un recul sur son cinéma, et qui est assez amusant à voir, et oui, qui, comme vous le disiez, fonctionne pas si mal que ça. Oui. Et en cette semaine de gesticulation canoise, peu de sorties à se mettre sous la dent. Raison de plus pour ne pas passer à côté du rôle troublant que Paul Verhoeven donne à l'éblouissante Isabelle Huppert dans Elle. Femme d'affaires redoutable et chef d'entreprise respectée d'une entreprise de jeux vidéo, Michelle gère son travail comme sa vie sentimentale d'une main de fer. Mais tout bascule quand un homme masqué s'introduit chez elle et la viole. Obsédée par sa volonté de tout contrôler, elle est gagnée par la paranoïa, dort avec une arme sous l'oreiller, entend des bruits et surtout se met à soupçonner son entourage et son personnel qu'elle fait espionner. Croyant pouvoir tout régler, elle préfère ne pas porter plainte et ne révèle rien à personne, se mettant à traquer son agresseur. Un jeu étrange s'installe alors entre eux, un jeu qui à tout instant peut dégénérer. Télérama annonce, on ne voit pas qui aurait pu porter le rôle à ces sommets d'ambiguïté, d'amoralisme, de solitude et de solidité. L'incarnation est si totale que défilent selon les virages du scénario plusieurs de ses personnages antérieurs. C'est une compilation époustouflante, un best-of de tous les registres d'Isabelle Huppert. À voir donc, et ça sort aujourd'hui en salle. Et puis à l'Institut Lumière en ce moment, eh bien c'est toujours la rétrospective consacrée à Roman Polanski, avant une prochaine rétrospective sur les mois de juin et juillet consacrée aux Frères Dardenne. Et cette semaine, vous allez pouvoir voir Chinatown, chef-d'œuvre s'il en est. Nous sommes à Los Angeles en 1937. Une femme embauche un détective pour faire suivre son mari, un ingénieur des eaux. Gates mène son enquête et renifle bientôt le sac d'embrouille, notamment une affaire de corruption. Après deux échecs commerciaux, Roman Polanski fait de ce film de commande un hommage magnifique et mordant au film noir, prenant comme sujet la guerre de l'eau à Los Angeles. Jack Nicholson, en inspecteur, avec une blessure au nez devenue mythique, trouve ici l'un de ses meilleurs rôles, tandis que Faye Dunaway arbore les deux visages traditionnels du film noir, celui de la femme fatale et de l'ange blessé. À leur côté, le cinéaste et acteur John Huston, rien que ça. Immense succès, Chinatown sera le dernier film américain du cinéaste, et c'est jeudi soir à l'Institut Lumière. Et puis vendredi et mardi, vous pourrez voir son Macbeth. Alors, je raconte pas l'histoire, mais je me contente de demander qui mieux que Roman Polanski, cinéaste fasciné par Shakespeare, maître d'un cinéma féroce, d'un humour diabolique et torturé, homme à la vie trouble s'il en est, pouvait adapter le chef-d'œuvre du dramaturge anglais. C'est un film controversé pour l'orgie de violence qu'il donne à voir et la jeunesse de ses acteurs, un échec commercial à sa sortie, mais il reste l'une des plus grandes adaptations de la pièce, à laquelle il est d'une extrême fidélité. Voilà, d'étoiles plein les yeux, c'est fini pour cette semaine. Un grand merci à vous, Mathias et Sarah, pour votre participation à l'émission. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à l'étonnant Maloute de Bruno Dumont. Et à bientôt.